Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Eh bien bonjour auditeurs, auditrices de RDOA, une nouvelle rencontre aujourd'hui pour l'interview du jour avec l'artiste Badia Bouridi, compositrice et interprète. Bonjour à toi.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue dans le studio de RDOA, Luc. Merci à toi de t'être déplacé jusqu'à nos micros.
Merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Donc maintenant, tu es une habitante de la commune de Minglon.
Absolument.
Mais tu arrives de loin, de bien loin.
Oui.
On va en parler plus en détail dans l'interview, mais peut-être qu'on peut commencer par une petite présentation et nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens.
Alors, je m'appelle Badia Bouridi. Pendant un peu de temps, assez longtemps finalement, je jouais sous le pseudonyme Naïssatou, mais ça c'était sous la dictature tunisienne, avant la révolution tunisienne, donc c'était pour me cacher, j'utilisais pas de photos, rien. Je suis chanteuse, je compose, je joue de la guitare, je joue un peu des percussions, et enfin je compose, j'arrange. J'écris en arabe Fusha, donc littéraire et tunisien, dialecte tunisien en majorité. J'écris aussi en anglais, français, espagnol, mais j'ai rien de released.
Wow.
Ouais, c'est la schizophrénie du tiers-monde.
Du langage.
C'est obligé.
Ouais, mais ça doit être super enrichissant de pouvoir justement composer et écrire de la musique avec plein de langues différentes. Excusez-moi.
Oui, bah, en fait, c'est le. Bah, déjà, la façon d'exprimer les choses, ça change avec la langue. Finalement, enfin, tu vois, en espagnol, je trouve que c'est beaucoup plus imagé, tu pars direct. C'est peut-être aussi lié aux sonorités. Le français, je trouve que c'est philosophique à chaque fois. Enfin, tu vois, c'est conceptuel. l'anglais, ça swing.
Ouais.
Tu peux raconter n'importe quoi,
oui.
C'est rigolo. Du coup, ouais, j'aime bien sauter dans ce sens-là. Et pour la rythmique, pour la sonorité et aussi pour les conséquences un peu. D'une culture, enfin le saut d'une culture à une autre. Mmh. Ouais. Ouais, voilà.
Depuis quand tu fais de la musique? Parce que là, tu as l'air de pratiquer à la fois beaucoup de langues, des instruments,
ouais.
Tu chantes et tout, donc j'imagine que c'est quelque chose qui revient de loin aussi.
Oui, je suis professionnelle, je gagne ma vie de la musique depuis 14 ans. J'ai commencé dans les chorales, tu sais, quand j'étais gamin et tout, on a les petites chorales de l'école. Et du coup, j'étais soliste. Mais vite fait, j'ai compris que j'avais une voix un peu spéciale. Plus tard, j'ai fait du classique comme Ouachahat, Malouf, donc le classique arabe, classique tunisien, mais qui est andalou en fait. Et la musique classique arabe, Fayrouz ou Om Kulthoum. Et puis j'ai eu une adolescence, donc rock and roll, du coup, c'était Pink Floyd, Led Zepp à fond. Et jazz, je crois que comment dire ça, avant j'étais schizophrène, maintenant nous allons bien, j'accepte ça, j'ai pas vraiment de style, et pareil pour les musiques que j'aime, j'ai pas de style, je peux écouter du métal comme écouter de la house, de la bonne house de Chicago, à partir du moment où c'est authentique, ça vient du cœur, je trouve que c'est vraiment juste ça. Donc ouais, j'ai fait musicaux à Paris. Donc, j'étais partie pour aller faire l'American School of Modern Music, mais ils m'ont fait passer le test pour dire à la fin, on n'a pas de cours de chant. Ça, d'ailleurs, c'est bizarre.
Ouais.
J'ai fait un voyage, j'ai payé un visa, un billet d'avion. Et donc, j'ai fini
Déception.
En musico. Ouais, carrément. Mais bon, moi, je crois que voilà, on fait ce qui doit être fait. C'est tant mieux, finalement. Parce que la musique,
ça amène à d'autres choses
ouais,
aussi.
Ouais, exactement, ouais. Donc voilà, j'ai fait musicaux, j'ai fait même de la chanson, de la musique contemporaine française avec Nicolas Peignet, un compositeur français assez cool, un groupe de musique indienne. Je fais de l'afrobeat, après j'étais à Londres, donc j'ai vécu à Londres, j'ai fait de l'afrobeat jazz dans un groupe magnifique.
T'es dans plein d'univers mélangés en fait, il n'y a vraiment pas de limite sur...
Oui.
Ouais. Non, dans ta créativité, pareil, dans ton travail
Je crois, oui. Ouais. Je crois qu'à part, en fait, peut-être la langue, donc l'arabe, où ça mène vers une identité arabe, mais si tu fais attention vraiment aux mélodies, ça passe. C'est pas de la musique, c'est pas que de la musique arabe.
J'ai écouté ton dernier album, justement. On en reviendra un petit peu. On reviendra dessus juste un petit peu après le début de cette émission. Du coup, donc, ta musique, c'est un univers varié, un univers assez riche. Donc, tu chantes en arabe. Est-ce que, d'après toi, c'est aussi ça qui apporte une particularité à ton travail ?
Sûrement, oui. Et moi, c'était une décision politique. Vraiment, enfin, j'ai fait mes études en France. Après, j'étais en Angleterre. Et je fais partie d'une scène qui est assez bouillonnante. La scène alternative arabe, on se connaissait vraiment, donc ça, Zaïd Sopkils, Goultra, j'allais dire Najim, ouais, enfin, ça va du Maroc jusqu'à la Turquie, quoi. Enfin, ça s'arrête, je vais dire à la Turquie, même si je connais des amis musiciens de Turquie. Mais ouais, cette scène-là, elle revendiquait aussi, on voulait un peu sortir du Habibi Song, donc du mainstream arabe, qui ne veut pas du tout parler ni crise existentielle de l'être humain, ni le chemin. En fait, ça parle pas vrai, jusqu'à maintenant. Pour réussir, on dit la Rutana Music, c'est une compagnie qatari, je crois, qui a vraiment bouffé le marché de l'industrie musicale. Et tu ne peux pas parler d'autre chose que des chansons d'amour. Et surtout, et en plus, vraiment dans la victimisation, dans... Il m'a trompé, je l'ai vu, nanana, tu vois.
Et donc, il y avait... Un peu la banalité.
Ouais, voilà. Mais il n'y a vraiment pas de variété dedans. Donc, cette scène-là, ça parle de politique, justement de ce qui nous touche, de ce qui touche les jeunes, de ce qui touche les adolescents, de trucs vrais, enfin, de parler vraiment avec ton cœur. Et moi, ce choix politique, c'était de vraiment chanter en arabe. Je me rappelle, j'ai eu le moment où je me disais, est-ce que je pars dans... Parce que tu composes, tu peux après aussi mettre ce que tu veux, tu vois, en parole. Donc oui, c'est pour représenter un peu ces gens-là et leur offrir aussi un truc qui leur parle.
Ouais.
écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Je faisais que de la protest song, pratiquement, genre j'ai deux chansons d'amour, tu vois, oui. Vraiment deux. Et d'ailleurs, ça s'appelle Amour et Tempête 1, Amour et Tempête 2. <Tu vois. rire> Mais du coup, ma réputation dans la région à Moyen-Orient, plutôt en Égypte, on dit Moltazima pour dire engagé, Moltazima. Du coup, ça a collé à mon nom. Mm. Et il m'appelle presque, tu vois, enfin, Steda, quoi. Il y avait une espèce un peu de respect qui me dérangeait presque. Tu vois, on te mettait dans la case, tu sais, un peu rigide. Je sais pas, c'est peut-être c'est un truc de stéréotype. Mais non, c'est juste un adjectif qui a été rajouté en Égypte, surtout. Et après, ça a collé à mon nom pendant un peu de temps. Mais mon pseudonyme, c'est Naïssatou. Naïssatou, c'est juste Tounseya, ça veut dire tunisienne. Mais genre en verlan, un peu en jouant avec les syllabes. Et puis ça sonne, ça sonne comme un prénom africain, mais subsaharien, parce que moi je suis africaine quand même. Mais je veux dire malien un peu, et moi je découvrais la musique malienne à ce moment-là. Et du coup j'ai choisi ce truc-là. Oh, mais encore, je l'utilisais pour me cacher. Et aussi parce qu'en vrai, je m'appelle Badira. Badira Bouhalizi. Donc il y a le ra, il y a le un peu rêche. Et quand j'étais à Paris, je faisais des concerts, qu'on me présentait, qu'on disait Badia, même si c'est pas très grave. Mais en fait, ça enlève un petit truc rêche. À un moment, ça fait que c'est cute, quoi. Moi, je suis pas très cute.
Ouais. Ça doit être gênant un petit peu, quand même, d'une certaine manière, non ?
Non, ça me gênait pas. C'est juste. C'était deux oiseaux d'une seule pierre, quoi. En fait, me cacher et. Et éviter aux gens d'avoir des consonnes un peu dures à prononcer. Voilà.
Du coup, tu es aussi connue justement parce que y a un certain, du coup, pas dans ton nom d'artiste, mais il y a un certain engagement dans ta créativité musicale.
Oui.
Est-ce qu'on peut en parler justement un peu de voilà, quel message tu souhaites faire passer à travers la musique, et que tu avais l'air de dire que ta voix, ta langue et la musique, ça a été aussi une force pour toi pour faire passer des messages que voilà, qu'un public a besoin d'entendre aussi.
Oui, absolument. Moi donc j'ai fait donc la scène rock en Tunisie sous la dictature. Et du coup, tu peux parler de rien vraiment. Avec ça, il faut comprendre que la dictature, surtout, c'est dans ton corps, c'est dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il y a tellement de censure que tu te censures toi-même. Que les gens, dès que tu commences, je veux dire, dans le métro, tu commences à parler du président, de la politique, il y a des gens qui vont te faire... Comme s'il y avait... Tu vois, c'est les murs qui ont des oreilles. Donc, il y avait ce truc-là de vouloir pousser les limites, de voir à chaque fois... Et en fait, j'ai pas fait exprès, j'ai pas essayé d'écrire... sur des situations sociales ou sur l'injustice sociale. C'est juste que c'est venu comme ça et que ça me touchait. Et petit à petit, enfin, je me suis rendu compte après, ma musique, elle passait sur des clés USB en Tunisie parce que c'était pas très...
Bah oui.
YouTube était censuré, par exemple.
Ouais.
Il y avait des festivals où... On avait les services secrets, quoi. Mais ils ne sont pas secrets, tu vois. Ils viennent te dire, on est la DST, tu vois, de la Tunisie. Ils mettent deux 4x4 à côté de la scène, face publique, pour vraiment, genre, intimider les artistes, le public. Et nous, on était donc, voilà, enfin, une bande de groupes où, justement, on ne voulait pas se faire intimider. À chaque fois qu'il arrivait un truc comme ça, t'enfonces encore plus le mur. Mais la vérité est que je ne me suis jamais fait arrêter. Mais il faut savoir aussi, sous dictature, on ne t'arrête pas pour tes idées. Généralement, enfin en tout cas en Tunisie, je veux dire, il y a eu même des opposants politiques qui se font arrêter, on leur jette un bout de hache dans leur poche, enfin, tu vois, en les arrêtant, en disant que c'est...
C'est à cause de ça.
Voilà, c'est à cause de ça. Donc moi, je faisais attention, je ne fumais plus à ce moment-là.
Ouais.
Je ne fumais pas, je ne sortais pas quand j'avais un peu bu, tu vois, juste pour éviter qu'on te cherche des noises ailleurs, quoi. Après, de 2008 à 2011, j'étais interdite de jouer en Tunisie. Et donc, ma musique, de toute façon, elle passait nulle part. Je ne sais pas comment dire ça. C'est pas comme il y a pas, y a, j'ai aucun, je trouve hein, que j'ai vraiment aucun mérite parce que c'est pas un truc où j'ai choisi en me disant c'est quoi les conséquences. Je pouvais pas faire autrement. C'est, je sais pas si c'est ma nature, moi je suis balance, tu vois. Donc,
oui, et puis ça fait voilà. partie de ton histoire et de ton quotidien, c'est ce que tu as vécu et tu avais l'air de le dire tout à l'heure. Ce qui compte pour toi, c'est les gens qui écrivent avec le cœur. Donc oui. Forcément, que quand tu es plongé dans un quotidien avec des inégalités et des choses comme ça, tu finis forcément par écrire, quoi. Oui. C'est le seul moyen d'expression qui te reste au final.
Oui, exactement. Moi je viens aussi d'un quartier super populaire à Tunis. Vraiment, genre, j'étais la première fille. Avoir un baccalauréat, tu vas pas être là mariée, avoir des enfants, être à l'université. Dans mon car, enfin mon frère, il s'est fait tabasser devant la maison. Juste les flics qui passaient, ils l'ont tabassé alors qu'il était assis sur les marches de chez nous, devant ma mère. C'est des trucs que tu vois presque, enfin pas quotidiennement, mais assez. Quand je prenais le métro, je voyais parfois des flics qui montaient, qui une fois où je me suis fait tabasser aussi parce que j'ai défendu un gamin de 10 ans. Tu vois, un flic qui pourquoi tu t'en prends, c'est-à-dire que, enfin, on disait qu'on était sous occupation. C'est pas, c'est même pas la police nationale là. C'est une armée d'occupation. Donc, ouais, voilà. Donc je me dis, je le sais, je n'ai pas de mérite là-dedans. Je ne pouvais pas faire autrement, sinon je me trahirais. Enfin, c'était soit tuer mon cœur ou me dire ouais, voilà, peut-être que tu te ferais arrêter, peut-être qu'on te tabasserait. C'est rien.
Il faut quand même de la force et du courage pour déjà traverser tout ça et réussir à en faire quelque chose qui aujourd'hui est brillant et qui a de la valeur. Donc,
j'espère.
Ouais, bah bien sûr, quand même.
Mais je t'avoue, t'as peur. Hein. Enfin, genre, quand il y avait la DST et tout, j'ai les enregistrements de ce concert-là. J'avais la voix qui tremblait. Les premières 15 minutes, je chantais.
Et du coup, ouais, c'était vraiment. Enfin, tu sentais vraiment que c'était viscéral pour toi de quand même prendre ce risque-là, quoi.
Oui, parce que en plus à ce concert-là, je me rappelle, j'ai eu l'impression qu'il y avait une révélation, c'est que en fait, moi, le public, il me protège. Plus il y a du monde qui m'écoute, plus ils vont avoir du mal à me toucher. Mmh. Et du coup, ça m'a donné vraiment de la force. Et je protège le public parce que ils ne disent rien, juste ils applaudissent ou ils disent ouais, tu vois. Et tu peux pas arrêter quelqu'un parce qu'il a dit ouais. cette symbiose-là, ouais. J'ai beaucoup aimé. Donc, ouais. C'était. Je regarde ça, c'était de super bons souvenirs. Parce que c'était par exemple un festival qu'on organisait. Enfin, c'est pas moi qui organisais, mais j'étais appelée en tant qu'artiste. Mais tout le monde était bénévole. On avait la scène gratuitement, le son, tout ça. C'était au bord d'une des plus belles plages en juillet. C'était un petit Woodstock. Genre avec la scène, avec l'eau derrière, tu vois, trop bien. Ça n'arrêtait pas 24 heures sur 24. Il y avait quelqu'un toujours qui mixait, soit doucement, quand les gens ils dorment, tu vois. À partir du midi, c'est du reggae.
Ouais,
parce que la plage, quoi.
C'est ça.
Ouais. Non, c'était magnifique, cette période. Donc même avec ouais, les flics, troisième année, ils sont arrivés avec des papiers pour dire à tout le monde, écrivez vos noms. Faire un engagement, tu sais, tu signes un engagement pour pas consommer des substances illicites. Mais en vrai, c'était surtout pour avoir les identités des gens.
Ouais, bien sûr.
Tu mets le numéro de ta carte d'identité. Mais je le crois toujours. Je crois que les flics, ils sont persévérants, mais ils sont cons, ils sont stupides.
Oui. C'est tout à fait bien dit. Exactement.
Ils ont mis les papiers, ils ont dit, ouais, voilà, enfin, tu mets ton nom et tu signes. Sauf qu'il n'y avait aucune vérification d'identité. Moi, je m'appelais Inès sur ce papier. Tu vois. Tu mets ce que tu
ouais,
veux.
C'est bête et méchant, quoi. Ouais, genre, voilà. On fait ce qu'on nous dit, on réfléchit pas trop. Ouais.
Mais bon, c'est nous aussi. Enfin, moi, j'aurais pu. Je veux dire, je me mets aussi à la place du flic. Ils me font pitié de faire tuer ton cœur comme ça. Ça fait pitié.
comment tu, avec quoi t'as enregistré du coup tes premières chansons et tout là-bas? J'imagine que c'était pas forcément le meilleur endroit. T'avais pas des studios ou des choses comme ça.
En fait, l'album qui est sorti là, il est presque tout enregistré avec le micro interne de l'ordinateur.
Incroyable.
Je faisais le son, enfin, j'utilisais Reason. Il y a quelques-uns, il y a peut-être un ou deux qui étaient sur Logic, mais a priori, la masse, c'est Reason Rebirth. Et j'enregistrais, parce que j'avais un micro, il avait un gros problème. Donc parfois, il faisait du parasite. Du coup, j'ai décidé d'enregistrer avec l'ordinateur, mais il faut attendre que le processeur s'arrête. Ça, c'était très rigolo. C'est dès que le processeur il commence, t'as tout le truc. Donc voilà, c'est pour dire aussi... aux auditeurs aussi que c'est pas les outils qui font l'artiste.
L'artiste, ouais, tout à fait.
Il faut sortir un album avec Acouphone, enregistré avec micro interne.
Ouais, Acouphone, du coup, c'est quand même un label indépendant.
C'est un label indépendant à Paris, oui. Ouais. Qui est super cool.
Avec, ouais. Avec qui tu, du coup, tu fais partie de ce label là.
Sur cet album là, parce que. Alors cet album, c'est une rétrospective, Karo Musika, c'est-à-dire c'est des morceaux. J'ai jamais sorti d'album. J'ai fait des sorties avec d'autres prods, genre pour un mixtape ou des trucs comme ça. Alors, j'ai sorti avec Adrian Sherwood la version The World, donc de Bob Marley. Bah, c'était cool parce que même la famille Marley elle a écouté, ils ont bien aimé. Yes.
Ouais. Ça c'est chouette ça.
Carrément. Ouais. Quand tu m'as dit, j'étais ouais.
Et chouette, c'est un petit mot.
Ouais. J'ai sorti un album avec Awale, mais je crois que c'est un truc de confiance en moi aussi que j'essaye jusqu'à maintenant de dépasser, de me mettre un peu... Ouais, d'avoir juste confiance en moi. Et Géro, donc le gars de Acouphone, il m'a contacté genre en 2016. T'imagines, l'album, il est sorti l'année dernière. Ouais. Il a fallu du temps et il était là, il me poussait. Vas-y, vas-y, vas-y. Pour que finalement, on en arrive... Ouais, voilà. Bah, on arrive là. Mais ça, c'est... Quand je disais, je suis schizophrène, ça, c'est donc mon côté électro.
Ouais.
Mais pendant longtemps, ça je le cachais un peu, il y avait quelques morceaux qui étaient connus, mais je faisais de la musique acoustique, donc j'étais guitare-voix, et puis finalement avec un groupe, un premier groupe où il y avait batterie, basse, violon, percussion, et moi guitare, et un autre groupe qui est plus bleu, plus éther quoi. Donc j'ai enregistré deux albums, ils ne sont pas encore sortis, ils sont sur mon ordi.
Ah là là, on va les sortir quand même.
Ouais.
Cool.
Ouais, là d'ailleurs, Zaïd justement, c'était un peu... Il m'a remué un peu. Je lui ai fait écouter, il m'a bien remué. Mon ami Zaïd, donc, de Soap Kills, de Bedouin. Donc ça, pour Acouphone, c'est plutôt le volet électronique. Mais qui sait ? Lui, il n'a pas de spécialisation. J'adore ce qu'il fait parce qu'il est très éclectique. Il a une super oreille, c'est un super mélomane. Il n'a pas cette vision orientaliste ou, tu vois, maghrébiniste. Ce n'est pas la pétillance maghrébine. Il arrive à écouter les subtilités. Il a une collection de rails et de musique tunisienne. Il avait des albums que moi, je ne connaissais pas. Je veux dire, d'artistes que j'aime bien. Donc, voilà, je ne sais pas encore. Peut-être encore avec Acouphone, même si on a signé pour deux albums, mais parce qu'il y a encore un autre album électronique qui devrait sortir. Et peut-être en New Sound, donc de Adrian Sherwood à Londres. Ça aussi, ça pourrait être cool. Un des albums acoustiques enregistrés rentrerait un peu mieux dans son catalogue à lui qu'avec Géro.
Ok. Voilà. Et cet album, justement, t'en as parlé 2016 au moment où il t'a contacté. J'ai vu du coup sur l'arrière de l'album que tout album a un processus de création. Celui-ci, il a commencé en 2004 à 2011 ans, ouais. En fait. Ouais. Et puis du coup, il a été enregistré en Tunisie, en France, à Londres, à Montréal.
Ouais.
Waouh, ouais. C'est une aventure. enfin, du coup, ça semble, comme on le disait tout à l'heure, j'imagine. Un projet qui a apporté beaucoup de richesse, le fait de travailler à différents endroits du globe aussi avec différentes personnes.
Là, c'est un album que j'ai produit, composé, arrangé, mixé toute seule. Il n'y a que le mastering que j'ai pas fait.
Ok.
Du coup, il est assez. Donc même, tu vois, quand t'entends un peu un son, t'as l'impression que c'est un son acoustique. En vrai, c'est du midi. Enfin, c'est du midi. C'est du bon midi, on va dire. Sinon, je crois que j'ai utilisé un sample et j'ai joué avec sur le morceau lent, en fait, Fil Madinat El Harima, c'est un sample de Douk ou de Naï, de Husnu Urgunar, super musicien turc qui te fait pleurer dès que tu commences, parce que le Naï est dans la culture arabe. Si tu écoutes les Naï, on dit que c'est l'instrument qui pleure. C'est vraiment. Ouais, donc, mais changer d'un lieu à l'autre, oui, carrément. La vibe, en fait. Et aussi, avancer un peu, je veux dire, il y a des morceaux, ouais, je les ai faites en 2004, mais genre j'ai tout finalisé quand même avant la sortie de l'album. Il y avait des trucs, c'est aussi pour ça que c'est pas sorti, c'est que tu sens, il manque un truc.
Ouais.
Parfois, c'est juste un truc de rythme, genre Limits of Control, c'était juste vraiment trouver tum 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 tum. Et ça y est, et pour moi, à partir du moment où j'ai mis ça, c'était un morceau.
Trop bien. Et c'était quoi un peu tes inspirations pour cet album-là ?
J'en prends pas conscience de façon consciente, réitérant. Mais je sais que, ouais, il y avait des trucs de jazz. Parfois, j'essayais genre des basses un peu bizarres. Par exemple, ça, c'était l'influence de Michel Degoncello. Il y avait un album. Alors, c'est quoi ? C'est elle n'a pas sorti vraiment à son nom, c'est parce qu'elle s'est convertie à l'islam, donc elle a sorti à c'était quoi, The Soul Music Jamia, collectif de musique de l'âme, quoi. C'est un album qui s'appelle Dance of the Infidel. Je vous conseille de l'écouter, il est juste magnifique. Et donc cette dame, elle m'a influencée pour, tu vois, enfin, les lignes de basse qui tirent, qui sont un peu chelous, mais qui vont être remises dans une esthétique joyeuse, avec l'harmonie, ou avec une voix qui les met en avant. Après, pour le chant, j'étais beaucoup influencée par la musique donc, du Mali, par Oumou Sangaré en particulier, parce que ça me rappelait des choses. Moi, je viens du nord-ouest de la Tunisie. On a les chants un peu en yodel, tu vois, comme les Suisses, mais c'est des voix qui envoient loin. Tu chantes. Déjà, moi, je ne peux pas chanter genre comme ça, tu vois, alors. J'y arrive pas, carrément. J'ai plus la voix, genre, je casse. Et ouais, donc il y a ces influences de les onomatopées, un peu les trucs, la musique naïve, un peu, tu vois, il y a aussi. La Papouasie, tu vois, les chants de la Papouasie, je sais pas, ça m'a trop touchée. Björk, donc Oumou, ouais. Sangaré, Camilla Jobran, qui est une artiste palestinienne hors norme. Je crois qu'elle est tellement avant-garde que on va commencer à l'écouter genre dans 50 ans.
Ouais.
Elle met.
Quel dommage.
Ouais, mais je comprends. Enfin, hein, je mets sa musique à la maison avec les amis. Son dernier album, c'est du free jazz, quoi. C'est presque, je veux dire, c'est dans ce sens-là un peu plein de. T'as l'impression que c'est plein de dissonances, mais en fait, c'est plein de fréquences. Ça ouvre, tu sais.
C'est surprenant, ouvrir. En fait.
Oui. Et surtout dans la musique arabe, c'est très consonant, la musique arabe. Il y a même pas d'harmonie en vrai. Il y a les instruments qui vont jouer la même chose avec la voix, tu vois, en unisson, et parfois ça va partir en improvisation. La force, elle est dans la linéarité, dans la narration.
Ouais.
Que tu modules, tu restes pas sur la même tonalité.
Ouais.
Et la mélodie, elle te prend, tu pars de triste à joyeux, à raconter des histoires. C'est très, très, très intéressant. Mais ça bloque un peu. Là, maintenant, bien sûr, la musique moderne, arabe, l'harmonie, elle est dedans. Il y a beaucoup qui utilisent l'harmonie. Mais les bases, il n'y avait pas ça. Et Camilla, sans même toucher à l'harmonie, même en restant dans le modal, elle fait des recherches hallucinantes où, effectivement, je crois que, tu sais, il y a parfois des musiciens qui sont des musiciens pour musiciens. C'est pas possible, tu vois, de comprendre les carcans que ces gars-là sont en train de casser, les nuances d'émotions qu'ils essayent de trouver, au lieu de juste, tu vois, pas juste la tristesse. Dans la tristesse, il y a la mélancolie, la nostalgie. Essayer d'exprimer ça en notes, sans les mots, c'est assez, ouais, c'est assez cool, c'est assez transcendant, en fait.
Ouais,
voilà.
C'est le bon mot, je pense.
Ouais. Donc, ouais, voilà, bah, à peu près, c'est mes grandes influences. Om Kulthum, bien sûr. Puis, ouais, Pink Floyd. Radiohead, j'étais une obsédée de ça en un moment.
Bienvenue au club, wow. Moi aussi, tout pareil. Yeah. Du coup, là, on a parlé un petit peu du fait qu'il y avait plusieurs albums qui allaient sortir aussi. Là, ouais. Prochainement, tu peux nous donner un petit peu d'indications ou c'est encore assez flou
Honnêtement, c'est assez flou. J'avais un peu d'espoir pour mai, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, pour un album, pour Love Revolt. Il s'appelle Love Revolt, d'ailleurs. Enfin, c'est un questionnement sur... Ça, c'est un album d'après-révolution. Questionnement, l'amour et la révolution.
Wow.
Entre... Et celui-là, si tout se passe bien, ça serait en mai. Mais si on n'arrive pas, ça sera l'automne prochain. Et si c'est l'automne prochain, ça va être les deux albums ensemble.
Ce qui peut être pas mal aussi, ouais. Deux d'un coup. Aller,
Vous êtes bien sur Radio Diwa.
Donc, en attendant ces prochains albums, j'imagine qu'on les retrouvera au même endroit. Mais là, ton album, moi, on a eu la chance de l'avoir avec Air Diwa. Mais sinon, est-ce qu'on peut le prendre sur un site internet? Enfin, j'imagine qu'il est disponible sur des plateformes
oui.
De téléchargement. Mais si on...
J'encourage plutôt Bandcamp. C'est évidemment. La plateforme la plus faire, quoi, la plus juste. Sur le profil, enfin sur la page de Acouphone, on peut taper Badia, Bourizi, ça s'appelle Kaharou Moussika, ça c'est la version digitale, et a priori, fin mars, il va y avoir la sortie vinyle.
Yes.
Yeah, ouais, je suis très contente de ça.
C'est la première fois, vinyle. Bah oui, du coup, premier album, donc premier vinyle, ah là là.
J'ai le vinyle de Wall, de Awale, de... avec Nicolas de Mosaïque, avec Nicolas Peigné, mais
là c'est le tien. Premier.
Ouais, non, il y avait un autre aussi, une compilation, c'est Pay It All Back, aussi on New Sound, et ça c'était trop bien. Il y avait tellement de super artistes là-dessus. De voir ton nom, tu vois, avec ces gars-là, tu te dis African Head Charge, tu vois, ou Lee Scratch Perry, c'est trop bien de voir ton nom au milieu.
Je comprends.
J'étais là. Ouais. Sinon, je sais pas, aux nouvelles, j'ai été l'album. Ce qui est cool avec ce Kaharou Moussika, c'est que on a décidé de faire une sortie sans grande pompe parce que c'est une rétrospective. Je tourne avec ce projet électronique Kaharou Moussika, mais ce n'est pas exactement ce qui se passe sur l'album parce que ça bouge. Donc c'est aussi des trucs plus récents. Et finalement, l'album a été choisi parmi les meilleures sorties avec Songlines Magazine pour automne 2023. Sachant que Songlines, c'est un peu le rêve de tous ceux qui font du global sound, de la world music, entre guillemets. Et là, j'ai été nominée pour artiste de l'année.
C'est plein de beaux rêves qui se concrétisent. Cool. Ouais, ça, c'est incroyable. C'est trop chouette. Félicitations.
Alors, merci. Je rêvais, il y a 2 ans, je me disais, ah ouais, je voudrais bien un Grammy, quoi. Ça serait cool. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'argent dedans. C'est pas que, ah non, s'il n'y a pas d'argent, mais genre un truc aussi grand, tu vois, avec tellement de moyens, pourquoi il n'y a pas d'argent? Tu sens un peu, ça rappelle un peu le truc, viens, tu fais ça et c'est pour ta promotion, tu vois. Mais bon, c'est pour l'anecdote, je serais trop contente d'avoir un Grammy.
Ouais, en vrai, juste pour le plaisir, franchement, ouais. Petite valorisation, tu le mets en déco chez toi, nickel.
Bah ouais. Carrément.
Donc, les albums sont disponibles sur Bandcamp. Le version CD, on peut le commander aussi, du coup.
Version CD, non, c'est des CD.
C'est juste, c'est nous qui avons de la chance. Et est-ce que on va avoir la chance d'avoir une représentation un petit peu de ce que tu peux proposer sur le territoire d'Iwa, penses-tu?
Alors, je voudrais beaucoup. En fait, j'ai joué plutôt, on a fait des petits trucs en acoustique, mais j'ai pas joué le projet avec lequel je tourne encore, parce que donc c'est électronique. Donc déjà au niveau son, je peux pas par exemple jouer au Barabok, tu vois. Il faut autre chose, il faut du gros son, et aussi, il y a du visuel, du mapping. Donc on a besoin de jouer le soir, ouais, voilà. Et on était, alors j'avais reçu une proposition de Hugo, donc pour le théâtre de Die. On a parlé un peu de ça, et puis Hugo il est parti, donc j'ai pas encore demandé à mon agent ce qu'il en est. J'ai pas demandé les nouvelles, mais a priori
ça pourrait
se jouer au théâtre de Die, qui est pour le lieu, en tout cas pour le mapping, on va dire. Pour le visuel, ça serait cool.
Ouais, c'est ce qui correspondrait le mieux. pour le moment par rapport à ce que toi tu proposes.
Il faudrait une boîte ou une boîte, tu vois, ou alors un endroit avec quand même pas mal de profondeur pour avoir la projection comme il faut. C'est juste et puis du bon son, bon ça bouffe.
Pour ceux qui ont une bonne boîte et du bon son, vous le savez, vous la contactez pour qu'on puisse la voir jouer. Avant de finir, moi j'ai une petite question. Comment ça se fait avec toute l'histoire que tu as et tous les endroits que tu as pu parcourir que tu te sois retrouvée sur notre territoire, à Minglon ?
Votre territoire qui, Inch'Allah, va devenir mon territoire et juste magique.
Qui est ton territoire désormais, d'ailleurs.
En fait, moi je crois que je suis une nomade née. Mais dernièrement, je cherchais quand même... j'ai toujours vécu dans des capitales, en vrai. Alors que j'avais ce fantasme depuis que j'avais 16 ans, je sais pas, vraiment en tête, genre mon grand-père... que j'allais finir... Enfin, tu vois, que tout ça, c'était juste temporaire. Et que la vie, c'est... à la campagne, mais carrément... Enfin, là, je suis dans le village de Minglon. Moi, je me verrais bien au milieu de la forêt. Hein, c'est aussi simple que ça. J'ai essayé quand j'étais à Tunis. Donc, j'étais partie pour faire une résidence Cité des Arts en 2019. Et quand je suis revenue à Tunis, là, je savais que je ne pouvais plus. Paris, c'était cool pendant le Covid. Figure-toi, parce qu'il n'y avait personne. C'était bien.
La scène et tout. Ça, j'en doute pas. Paris, avec un peu moins de tous ces gens-là, tout de suite, c'est plus agréable.
Et en fait, j'ai jamais eu les besoins de choses qu'on peut retrouver en ville. En vrai, je cherche en ville. Je me suis rendu compte que mes besoins que je cherchais en ville, ils venaient tous de hors la ville, quoi, de la campagne ou... Donc j'ai essayé un peu de me trouver un terrain, j'ai réussi, mais je ne l'ai pas acheté au final. Parce que mon père, il m'avait convaincu que ce n'était pas une bonne idée d'être une fille seule. Enfin, en Tunisie, à la campagne, où tu peux... Parfois, il n'y a même pas de réseau, tu vois, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Il a un peu raison. En plus de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros problème d'eau, là où j'allais acheter. Ce qui expliquerait que c'était pas si cher que ça. Et donc voilà, j'ai ma meilleure amie, j'ai deux meilleures amies, mais une qui habite dans le Trièves, à Clèle.
Okay.
Donc j'allais assez souvent chez elle. Et elle est amie avec Kate Fletcher, donc des gardeurs. Gardeur, c'est avec Emmerich. Alors je sais plus son nom de famille, mais voilà. Kate, c'est une musicienne violoncelliste qui fait de l'électro. Juste un électron libre, anarchiste, tu vois, à l'intérieur, bien solide, comme il fait une nana, tu vois.
Quoi ?
Donc, je l'ai connue à travers Oumaima, parce que j'arrivais à l'organiser un festival carrément chez elle. Et j'arrivais avec mes guitares, donc j'ai joué. Et on est restés en contact. Et quand je cherchais là à la campagne, j'allais prendre une autre maison près du Pila. Et puis, elle m'a envoyé un texto en me disant, mais tu veux pas venir plutôt habiter avec moi ? On fera de la musique et tout. Et j'ai pris ça pour un signe. Parce que j'étais carrément en train de lire le contrat, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée donc chez Kate. On a un piano à queue, c'est génial.
Parfait.
Ouais.
Et tout ce qu'il faut.
Ouais, carrément.
La campagne, la nature, la musique.
Ouais. Et en vrai, moi, quand je disais nomade, généralement, c'est après une année, un truc, je commence à avoir... tu vois, ça me gratte, quoi. Je veux bouger. Et là, je me suis rendu compte que là, ça fait un mois et... Ça, c'est mon un an et deux mois que je suis là.
Et ça va.
Et ça va très bien.
Peut-être un petit côté de sérénité ou quelque chose. Enfin, on est moins dans la pression et la rapidité.
Ouais, ça, de toute façon, moi, j'étais toujours... Enfin, je suis un peu
en tant
rapide,
qu'un...
mais comme aussi ce que je fais dans la musique, je fais toujours une rythmique rapide et une voix qui flotte ou des mélodies qui flottent. Et j'aime bien ça. Et le diwa, c'est pas juste déjà... Enfin, super beau, vraiment. C'est beau, il y a... Enfin, il y a un truc magique. Moi, j'ai retrouvé un peu, genre en Amérique latine, tu vois, tu sens la terre, elle est encore vivante. Tu tapes par terre, tu sens que tu as des ondes quoi, qui te remontent dans le corps. Mais à part ça, la population du Diwa aussi, elle est super intéressante et magnifique. Elle est très, tu vois, enfin, hétérogène, mais d'une façon, enfin, je sais pas, c'est comme un champ de fleurs, quoi, tu vois. Les gens, ils sont vraiment... ouvert, à la cool, très généreux, émotionnellement et autre. Du coup, enfin, c'est comme si, je n'en sais rien, je ne veux pas trop dire ça, je ne sais pas si je serais acceptée, mais moi j'ai l'impression que j'ai trouvé ma tribu. Voilà.
Bah, c'est très bien que tu aies trouvé ta tribu auprès de nous. Carrément, carrément. Merci beaucoup pour tous ces beaux moments. J'espère qu'on se reverra du coup.
Inch'Allah. Merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Yes. Et juste, on aime bien laisser une petite parole libre à la fin des interviews sur RDIWA. Donc ça peut concerner n'importe quel sujet, un coup de gueule, un coup de cœur, quelque chose sur ton album, quelque chose sur le DIWA, qu'importe.
Moi, j'allais dire, la scène musicale, elle est superbe. Moi, j'ai un coup de cœur pour Mood. J'ai rencontré des musiciens ici qui sont aussi très magnifiques. Ça va de l'académique, du technicien qui est très carré, comme Jean, je ne connais pas son nom de famille, mais genre Jean de l'Andarta, au gars qui est touche à tout, comme Franck, le pianiste de la roulotte mécanique, que je connaissais d'avant, de Sabi, qui est tunisienne, à Romain, le contrebassiste, qui est aussi magnifique, très polyvalent, qui est bien sur une basse électronique ou une contrebasse très dure, hein, c'est pas donné. Et ou des musiciens instinctifs et généreux comme Robin Paluo à la guitare. Voilà, enfin moi je dis aux musiciens, je vous aime tous, vous êtes tous magnifiques ici.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
هي تذهب